Que ve shooting de jazz.
Digo de Radio France Internacional.
Non, disso eco. Sire.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde avec les rédactions de Radio France Internationale. Ce soir avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilak.
Mira.
Christina Okello de la rédaction en anglais.
Good evening.
Et Xenia Goulia de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Bonsoir à vous toutes.
Hollywood A-listers who worked with Harvey Weinstein are now condemning him. Meryl Streep penned this.
Le scandale n'en finit pas de prendre de l'importance. Parti de Hollywood avec des accusations accablantes contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Il touche les pays du monde entier. Dernière illustration, l'écrivaine française Ariane Fornia, fille de l'ex-ministre sarkozyste Éric Besson, accuse l'ancien ministre socialiste Pierre Joxe de l'avoir agressé sexuellement au printemps 2010. Ce que l'ancien membre du Conseil constitutionnel dément aujourd'hui. Cette affaire, en tout cas aux États-Unis, a donc permis de libérer la parole des femmes dans le monde entier, y compris en France. Et depuis, les témoignages pleuvent, Christina Okello.
Tout à fait, Philippe, car tout le monde en parle. Depuis une semaine, on voit un déferlement sur les réseaux sociaux des femmes victimes de harcèlement qui n'hésitent plus à désigner la propre Harvey Weinstein. Ça peut être un chef de service, un collègue ou bien un proche. À travers le hashtag Balance ton peur ou MeToo, elles témoignent de leurs expériences de harcèlement ou d'abus sexuels. Et le constat est sans appel. Le hashtag MeToo a été retweeté plus d'un million de fois dans la seule journée de dimanche lorsqu'il a été créé. C'était l'actrice américaine Alyssa Milano qui était le fer de lance de cette action. Et quand on voit le nombre de retweets, on peut mesurer l'ampleur du problème.
Xenia Goulia, est-ce qu'en Russie, il y a eu des mouvements sur les réseaux sociaux comparables, comme en France, avec ce fameux hashtag « Balance ton porc » ?
Oui, l'année dernière, il y a eu un mouvement comme ça. En Russie et en Ukraine, les femmes ont commencé à raconter leurs histoires d'harcèlement et d'agression sur les réseaux sociaux avec un hashtag Я не боюсь сказать, ça veut dire « j'ai pas peur de le dire ». Les témoignages, des milliers et des milliers de témoignages ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux. Mais ce mouvement a été aussi très critiqué par les journalistes, les blogueurs, d'ailleurs surtout par les hommes. On comparait ce mouvement à un festival du porno. D'autres ont dit que cette action virtuelle n'a pas d'utilité pour la vie réelle ou que les femmes pouvaient mentir sur les réseaux sociaux pour devenir célèbres. Mais tout ça a permis de voir l'ampleur de l'omerta qui règne en Russie et pas que en Russie.
On va y revenir dans quelques instants. Avant cela, Christina, comment expliquer que ce hashtag MeToo, moi aussi, ou Balance ton porc soit devenu littéralement viral sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il s'est diffusé très rapidement.
Oui, tout à fait. La rédaction anglaise, nous avons posé cette question à une experte des réseaux sociaux, à Emma Suleiman. Elle est cofondatrice de l'agence Invite the Media. Elle explique que le hashtag MeToo a fait mouche car il correspond à l'air du temps. Je vous propose de l'écouter.
First of all, MeToo as a hashtag was created 10 years ago.
Donc en gros, elle explique que contrairement à ce qui se passait il y a 10 ans lorsque le mouvement a vu le jour, il y a aujourd'hui un véritable élan, certes porté par des célébrités d'Hollywood qui n'hésitent pas à prendre la parole, ce qui encourage ensuite à d'autres femmes à parler. Et pour que ça marche, il faut que les stars en parlent. Deuxièmement, pourquoi ça fait mouche? Parce que le harcèlement sexuel est un phénomène universel qui touche à toutes les femmes, parfois même à leur insu. Emma confie qu'elle a lu un post d'une femme qui était dans une relation abusive et comment elle s'est rendue compte qu'elle aussi, comme cette femme, vivait une histoire abusive. Et c'est ça qui explique le succès de ce mouvement MeToo. On peut s'y identifier car nous, les femmes, sommes toutes passées par là.
Et maintenant, Christina, au-delà de cette mobilisation massive, va-t-on vraiment assister à un changement de mœurs, de pratiques?
Si, mais à condition que les hommes participent aussi. Car ça ne sert à rien si toutes ces femmes se livrent, si ensuite les hommes ne les écoutent pas. Elles ont été confinées pendant très longtemps dans une culture de silence, une culture d'ailleurs dénoncée par la chroniqueuse Suzanne Moore dans le journal britannique The Guardian. Plusieurs acteurs comme Matt Damon ou Quentin Tarantino savaient pour Harvey Weinstein et Suzanne Moore les accuse d'avoir été complices par leur silence. Aujourd'hui, cette omerta doit finir selon Melissa Silverstein. Elle est auteure du livre Le Femme et Hollywood. Écoutons-la.
Women are seeing that people in positions of power are not operating with impunity.
Que dit Melissa Silverstein?
Elle dit que les femmes voient aujourd'hui que les hommes en position de pouvoir ne sont plus invincibles et peuvent tomber, comme le prouve le cas du journaliste américain Billy O'Reilly, et que par conséquent, elles ne doivent plus subir des injustices. Point intéressant aussi, elle explique comment l'arrivée du président américain Donald Trump, poursuivi lui aussi pour agression sexuelle, rappelons-le, a galvanisé les femmes qui disent maintenant ça suffit. Mais pour ne pas passer pour des femmes qui détestent blesse les hommes. Il y a aussi un autre hashtag qui commence à faire son chemin, Balance ton héros, qui permet aux femmes de donner l'exemple des hommes qui les ont traités avec respect, comme pour encourager d'autres à leur emboîter le pas.
En Russie aussi, le scandale d'Hollywood est largement suivi donc et commenté, Xenia Goulia.
Les médias en parlent énormément. D'ailleurs, elles sont toujours ravies de couvrir les scandales aux États-Unis. Mais cette affaire provoque plus de blagues que des réflexions réelles. Il n'y a pas de prise de conscience. Certains journalistes rejettent une part de la faute sur les femmes. Les autres dénoncent la chasse à l'homme. Dans le monde cinématographique, il n'y a pas de consensus sur ce sujet. Je vous propose d'écouter la comédienne Lyubov Tolkalina, interrogée par le site Medusa.
Не поступили не совсем по девчачьи, что ли? Ну, потому что сексуальное домогательство, это же прекрасно.
Que dit-elle?
Bah, elle dit, si tu as un rôle, peu importe comment tu as réussi à l'avoir, si tu n'aimes pas le harcèlement, juste refuse le rôle, mais ça serait dommage pour toi. Dans tous les cas, il faut jamais raconter ces histoires à personne parce que ça t'abaisserait. Après, cette actrice, elle a essayé de faire marche arrière, mais ça n'a pas trop marché.
Hermine Roumilac, à présent en Chine, y a-t-il une réaction similaire à celle qu'on voit dans les pays occidentaux?
Oui, ce sujet très grave qui peut toucher n'importe qui dans la société et malheureusement reste encore un tabou dans la société chinoise. Comme disait ma consoeur tout à l'heure, en fait, il n'y a pas non plus de conscience collective en Chine pour ce genre de cas. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de dénonciations d'harcèlement sexuel contre le producteur américain de la part des stars chinoises qui fréquentent Hollywood. Et dans la société, il n'y a pas non plus de campagne de dénonciation similaire que ce qu'on a parlé tout à l'heure non plus. Donc il y a une actrice, Zhang Ziyi, qui aurait dit à la média que le producteur américain l'avait contactée pour un rôle en lui promettant un prix Oscar, mais elle a refusé.
Du reste, on sait que les réseaux sociaux sont très surveillés en Chine.
Hein. Ah oui, mais rien ne doit troubler la stabilité de la société, surtout actuellement, on sait qu'il y a le 19e congrès du parti.
On en parlera tout à l'heure.
Oui, ce genre de campagne n'a forcément pas sa place actuellement dans la société en Chine. Les féministes et d'autres personnes qui sont capables de mener l'action n'ont tout simplement pas tout dit ni les moyens de se lancer là-dessus.
Hermine, est-ce qu'il y a des scandales sexuels comparables à celui de Weinstein qui soient dévoilés en Chine?
Comparables, je pense pas, mais on sait qu'en Chine, le sexisme machiste, vulgarité et d'autres formes d'abus sexuels sont flagrants dans la société chinoise. Par exemple, les annonces d'embauche n'hésitent jamais à mentionner la taille, l'âge et la beauté physique des prétendantes candidates. Autrement dit, dans pas mal de cas, il faut être jolie et jeune pour décrocher un poste. Donc, dans le milieu de cinéma et de divertissement, on parle souvent des règles émergées, c'est-à-dire il faut payer avec son corps pour décrocher un rôle. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais les rumeurs sont nombreuses et les démentis aussi. Donc, le milieu cinéma et les autres milieux de divertissement n'a pas une très bonne image sur ce plan-là. Donc, ce silence, maintenant, je pense que ça cache beaucoup de douleurs des gens qui sont concernés.
Revenons à la Russie avec vous, Xenagou. Et la situation des droits des femmes en général qui laisse à désirer.
Oui, ça se dégrade énormément. En février dernier, les actes de violence domestique ont été décriminalisés. C'est-à-dire, si un homme bat sa femme sans la blesser gravement, c'est considéré comme une simple affaire administrative et non pénale. Chaque année, plus de 10 000 femmes meurent sous le coup de leur partenaire en Russie, c'est-à-dire une femme chaque 50 minutes.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant, bien évidemment, sur cette affaire. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 heures Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
C'est l'attentat le plus meurtrier en Somalie depuis 2010. Près de 300 personnes ont été tuées, presque le double blessées, cela dans deux explosions à la bombe, c'était samedi dernier, dans la capitale, Mogadiscio, et une semaine après, Christina Okello, seulement une semaine après, cet acte terroriste ne fait déjà plus la une de l'actualité.
Malheureusement, c'est ce que disent les gens sur les réseaux sociaux, Philippe. Certains n'hésitent même pas à qualifier de honteux le silence des médias face au drame que vit la Somalie. Mais qu'en est-il vraiment? Avant d'y répondre, revenons-nous à cette nuit du samedi 14 octobre dernier. À la rédaction anglaise, nos correspondants n'ont pas été en reste et au desk, nous aussi avons pu recueillir des témoignages des médecins, des humanitaires sur le front de l'action ou bien des membres de la société civile. Comme Omar Farouk Osman, le secrétaire général de l'Union des journalistes en Somalie, qui lui a perdu 11 de ses collègues. Écoutons-le.
People have never died like they died yesterday.
Quelle est la teneur du témoignage d'Omar Farouk Osman?
Il dit, Philippe, que jamais les gens n'ont été tués comme ils l'ont été dans l'attentat de samedi dernier. C'était comme un tremblement de terre, dit-il. Tout tremblait, les gens, les maisons. Il a ressenti, car son journal est à peine à 400 mètres de lieu de l'explosion. Il dit que le mot ne peut pas décrire l'indicible. Maintenant, les gens sont en colère, ils ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive.
Incompréhension, car on ignore toujours qui est responsable de cet attentat.
Tout à fait, les autorités pointent sur les islamistes Shebab liés à Al-Qaïda. Il y a une forme de colère aussi de la part de Somaliens quant à l'indifférence, disent-ils, de la communauté internationale, explique Kadar Adan, un habitant à Mogadiscio. Écoutons-le.
This is a massacre. This one is like the one happened in Syria.
Donc en gros, il dénonce une justice à deux vitesses de la part de la communauté internationale qui privilégie selon lui certaines victimes par rapport à d'autres. Il dit que si cet attentat avait eu lieu à Paris ou aux États-Unis, on aurait vu des grands mouvements de solidarité à l'instar de Je suis Charlie enflammer la toile. Mais comme il s'agit de la Somalie, un pays noir, musulman en plus, le monde en gros s'en fout et donc il n'y a pas eu de Je suis Mogadiscio.
Il y en a eu, mais j'en ai vu sur Facebook, mais pas énormément. Effectivement, sans commune mesure avec ce qui se passe quand il y a un attentat à Las Vegas ou bien à Paris. À Paris, par exemple, les couleurs de la Somalie ont orné la Tour Eiffel. Plusieurs dirigeants ont affiché leur solidarité avec les autorités sur place. Il y a quand même eu quelques mouvements de compassion.
Oui, ça c'est du côté politique, mais pour les médias, pour nous, ce n'est pas évident de faire vivre une situation qui se passe à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous et la rendre vraie pour notre public. Nous avons tendance, malheureusement, à mettre à la une des morts qui sont plus proches de chez nous afin de fidéliser nos publics. Cela revient à ce qu'on disait sur l'affaire Harvey Weinstein juste maintenant. Elle a fait mouche car les gens ont pu s'y identifier. Le Somalie, malheureusement, est loin, souffre d'une mauvaise image, celle d'un pays enfermé dans la guerre civile que beaucoup de gens ne comprennent pas, simplement.
Alors justement, est-ce que ce n'est pas le rôle de la presse de donner des clés de compréhension pour dépasser les clichés?
J'ai tenté de poser cette question à notre rédacteur en chef de Weekend, Aidan O'Donnell, qui a couvert l'attentat de Somalie lorsqu'il était encore en Breaking News. Et lui, par contre, rejette les critiques. Je vous propose de l'écouter.
When something like this happens, you concentrate on facts. People want to know what's
happened. Donc, juste pour terminer, il dit que les médias, oui, ont parlé de l'attentat en Somalie. Certes, au début, on se concentre sur le fait. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé, qui est mort, pourquoi. Après, quand on regarde les attaques en Europe ou aux États-Unis, on voit que les médias commencent à faire du storytelling, à raconter une histoire de qui étaient les victimes, pourquoi. Car 280 morts est un chiffre énorme. On comprend pas. On n'arrive pas à digérer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire plus de storytelling, comme cette histoire d'une femme somalienne de 22 ans qui était sur le point d'être diplômée et dont le père était venu voir, assister à sa remise de diplôme et qui finalement a dû assister à son enterrement. Et donc, en fait, ces histoires-là qui parlent, explique Aidan O'Donnell. Il dit que, voilà, nous, les médias, peut-être on devrait passer par là, peut-être on devrait revoir notre modèle et et prioriser, voilà, du storytelling à la place du simple fait.
C'est-à-dire que la petite histoire, si tant est que l'histoire d'une personne, une petite histoire, permet de raconter la grande histoire, l'histoire du monde, l'histoire d'un pays.
Oui, ça rend vrai, on dépasse ces chiffres mirobolants de 300 morts, on ne comprend pas. Mais par contre, tout le monde a passé son diplôme,
on peut s'identifier et mieux comprendre.
On peut mieux identifier et mieux comprendre.
Merci à vous, Christina Okello, de la rédaction en anglais de RFI. L'événement politique en Chine, c'est le 19e congrès du Parti communiste où a été donné l'hymne national que l'on entend en ce moment avec la voix de Xi Jinping. Ce qui est assez inhabituel, c'est que ce congrès fait la une en France et ailleurs dans le monde. Hermine Roumilac, en quoi ce congrès revêt-il donc une importance si spéciale?
Parce que la Chine passionne, la Chine inquiète et la Chine intrigue le monde entier en ce moment pour multiples raisons. Parce que pour beaucoup d'observateurs, ce congrès signifie que le monde est entré dans l'ère chinoise. Ça signifie aussi que la prise en main totale du pouvoir pour le président chinois qu'on vient d'entendre, M. Xi Jinping, et aussi le retour du culte personnel tant redouté en Chine après le désastre de la révolution culturelle. Donc sur le plan international, l'économie de l'Europe, on sait qu'il est dans une profonde crise et l'Amérique de Donald Trump se renferme de plus en plus sur lui-même. Donc à ce moment-là, la Chine en a profité depuis quelques années pour devenir incontestablement un pays très puissant et influent sur la scène internationale.
Alors Xi Jinping sera sur surprise élu pour 5 ans à la tête du parti, il a déjà tous les pouvoirs. Est-ce qu'il va en avoir encore plus à l'issue de ce congrès ?
À part les pouvoirs, Xi Jinping cherche aussi à avoir une place historique dans l'histoire de la Chine. En 2016, il avait déjà été hérité du titre de cœur du parti qu'il avait placé sur un pied d'égalité avec le grand timonier Mao Zedong et le père de la réforme économique de l'après-Mao, M. Deng Xiaoping. Dans ce congrès, le nom de Xi Jinping pourrait entrer dans le charte du Parti communiste chinois, qui va être amendé aussi. Avant lui, seulement Mao Zedong et Deng Xiaoping ont eu droit à cet honneur, et seulement après leur mort seulement. Donc si cela se confirme, Xi Jinping sera alors le premier président chinois à être nommément cité dans les statuts du Parti communiste chinois de son vivant.
Xi Jinping est très populaire en Chine, il s'est imposé sur la scène internationale, mais sa politique inquiète également, hein, Hermine.
Il faut dire qu'aucun champ d'action n'a échappé à son pouvoir hyper-centralisé, personnel et autoritaire. Sur la scène intérieure, Xi Jinping déroule une vaste campagne anticorruption. Ça lui a permis de neutraliser ses ennemis. En même temps, il anardise de la société chinoise et verrouille le parti par un double tour de vis, glacial et sans précédent. Le parti est au-dessus de l'État. La société civile perd de plus en plus de liberté. Donc si le rêve, si cher à Xi Jinping, le rêve chinois est d'assurer la Chine un avenir très puissant, donc on peut dire que le peuple chinois a perdu toute sa liberté.
Alors justement, l'espoir de la réforme politique portée sur lui il y a 5 ans, tout cela c'est fini, c'est très loin maintenant.
Oui, c'est très loin, donc
il n'y a
pour
aucun signe.
Il n'y a aucun signe qui montre cette éventualité. Xi Jinping a appelé mercredi, lors de l'ouverture de ce congrès, que le Parti communiste va combattre tout ce qui pourrait menacer l'autorité du parti au pouvoir.
Et vous avez consulté un historien là-dessus ?
Oui, l'historien qui s'appelle Zhang Lifan, qui est très connu. Il a dit que Xi Jinping ne peut simplement pas reculer et dans sa voie de dirigeant autoritaire.
On va l'écouter. En substance, que dit-il ?
Il dit qu'il n'a pas de chemin de retour puisqu'avec la campagne d'anticorruption et la politique de censure et de verrouillage, il a touché, offensé les acteurs de tous les domaines. Donc, à part les clans politiques, les intellectuels, les entrepreneurs ont aussi à se plaindre. Donc, il a trop cumulé le pouvoir qu'il risque de perdre totalement le contrôle s'il montre des signes de relâche.
Hermine Rumilac de la rédaction chinoise de RFI.
Ты царь. Ты имеешь право на все, кроме любви.
La semaine prochaine en Russie sortira ce film, Mathilda, c'est son titre. Un film qui raconte le dernier tsar russe, Nicolas II, et qui déchaîne les passions à tel point que certains évoquent la naissance de talibans orthodoxes. Xenia Goulia, dites-nous en plus d'abord sur ce film.
Il raconte l'histoire d'amour entre le dernier tsar russe, Nicolas II, et la danseuse du ballet Mathilda Kchesinskaya, cette romance qui a eu lieu avant le mariage de l'empereur. Il faut savoir qu'en Russie, la figure de Nicolas II, c'est un sujet très sensible. La famille impériale a été canonisé et reconnu martyr par l'Église, tous étaient tués par les bolcheviks. Et pour certains croyants, le film, donc, c'est une offense à la mémoire du tsar et un blasphème.
Alors, cela dit, presque personne n'a encore vu Mathilda. Pourquoi est-ce qu'il provoque déjà des actes de violence même ?
Oui, le bureau du réalisateur, Alexei Uchitel, a été visé par un cocktail Molotov, une camionnette s'est écrasée contre un cinéma, etc. Des nombreuses salles de cinéma ont reçu des menaces de la part de l'organisation qui s'appelle l'État chrétien, la Sainte Russie. Et dans certaines régions, comme en Tchétchénie, le film est carrément interdit.
Alors, qui a lancé cette croisade contre Mathilda ? C'est une Natalia Polotskaya, députée de la Russie unie, qui est partie au pouvoir. C'est une ultra-monarchiste qui est fan de Nicolas II. Hein.
Oui, elle réclame l'interdiction du film. Elle a porté
43 plaintes.
Oui. Et certains l'accusent d'être l'origine de ces violences, mais elle nie tous les liens avec les radicaux.
Peut-on parler d'une naissance en Russie, donc d'un mouvement orthodoxe extrémiste, pour pouvoir dire des choses comme taliban orthodoxe ?
Ce mouvement reste quand même très limité. Cette organisation est à chrétien. Il est constitué d'un tout petit groupe de personnes et ses leaders ont été arrêtés.
Merci à vous, Xenia Goulia. Il y a beaucoup à dire, à retrouver sur le site russe, bien évidemment, de la rédaction de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.